En haut.
Oh, c'est pénible ça.
Ben, normalement, personne ne doit y toucher, tout le monde y touche.
Ben oui.
C'est ça qui est pénible.
Ouais.
Même aux gens, je leur dis, vous touchez pas.
Ben ouais,
non,
mais c'est toujours
clic.
En haut. Moi, j'étais toujours en haut,
en haut
ou pas?
De toute façon, normalement, c'est marqué. Enfin, là-bas, normalement, on doit le voir aussi. Mais oui, il n'est pas à toucher.
Oh.
Voilà. Là.
Ils sont prêts? Vous êtes prêts?
Je peux y aller? C'est parti? Bon, on va commencer, Madame Ravel. Écoutez, moi, voilà, c'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'espace Mendès France et derrière vos écrans. J'espère que vous êtes nombreux. Donc aujourd'hui, dans le cadre des Amphis du Savoir organisés par l'espace Mendès France et l'UFR SFA de l'Université de Poitiers, j'ai le plaisir d'accueillir Célia Ravel, qui est donc professeure au CHU de Rennes et qui travaille dans le service de biologie de la reproduction. Donc, depuis 1978, date de la première FIV, bien sûr, la recherche a avancé dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Et aujourd'hui, Célia Ravel va nous dire les dernières recherches qui sont faites et les enjeux liés à ces recherches. Je lui laisse tout de suite la parole. Et bien sûr, après, vous pourrez lui poser toutes vos questions. N'hésitez pas, par chat, à vous envoyer les questions. Merci.
Merci, Madame Guiton, pour cette invitation à venir vous parler... comment est-ce qu'on peut mettre le diaporama? Il faudrait mettre le diaporama. Donc je vous remercie de m'avoir invité à vous parler des bébés du XXIe siècle, en fait, avec les nouvelles technologies et l'impact que ces nouvelles technologies vont avoir sur la prise en charge, nous, en assistance médicale à la procréation. Alors, bon. marche pas ? C'est ça, hein, ça marche maintenant. Ouais. Super, voilà. Et donc voilà les trois grands domaines qui ont beaucoup évolué concernant justement l'impact de cette nouvelle technologie. Tout d'abord dans le domaine de la fécondation in vitro, ensuite dans le domaine de la génétique et enfin dans le domaine de la biologie cellulaire. Et ce sont ces différentes évolutions dans chacun de ces domaines que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord, la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, la première FIV, en fait, elle a eu lieu dès le XVIIIe siècle. C'était un prêtre italien, Lazzaro Spallanzani, qui a fait des expériences sur les grenouilles. Et en fait, il a eu l'idée ingénieuse de mettre des caleçons aux grenouilles mâles. Et il s'est aperçu que quand il mettait des caleçons à des grenouilles mâles, malgré des relations avec une grenouille femelle, il n'y avait pas de tétard. Par contre, quand il récupérait le caleçon, après la rencontre avec la femelle, qu'il récupérait le contenu du caleçon et qu'il le mettait en contact avec les ovocytes libéré par la femelle, là, il obtenait des tétards. Donc, ça a été la première preuve, la première fécondation in vitro chez la grenouille. Donc, c'était la première fois que, on mettait en évidence la rencontre entre le gamète femelle et le gamète mâle, avec, vous voyez, les spermatozoïdes. Donc là, je vous ai montré, je vous ai illustré, là, c'est un ovocyte humain, un ovule mature prêt à être fécondé. On reconnaît l'ovocyte grâce ici à sa zone pellucide qui est une structure qui protège la cellule, le cytoplasme ici et le premier globule polaire qui a été expulsé et donc qui prouve bien que cet ovule est prêt à être fécondé. Et puis en regard, vous avez les spermatozoïdes hein, qui, vous voyez, sont très nombreux. De petite taille par rapport à l'ovocyte, mais surtout très mobile. Et donc, il faut qu'il y ait plusieurs millions de spermatozoïdes par millilitre pour pouvoir féconder un ovocyte, pour avoir une fertilité normale. Donc, la fécondation, c'est la rencontre des gamètes mâles et femelles avec, vous avez donc le spermatozoïde qui va apporter son lot de chromosomes, l'ovocyte qui va apporter son lot de chromosomes. La fécondation permet d'obtenir le zygote. Donc c'est cette cellule unique qui contient donc le patrimoine génétique de la maman en rose et le patrimoine génétique du papa en bleu. Ça, c'est la première cellule qui contient toutes les informations nécessaires au développement de l'individu avec la présence de 46 chromosomes. Et ce zygote va se développer, va donner un embryon et ensuite qui va se développer dans l'utérus de la maman. Donc la première fécondation chez l'homme, la naissance du premier bébé né par fécondation in vitro, c'est, comme vous l'avez déjà annoncé, Madame Guiton, donc ça a eu lieu en 1978. Donc c'était un gynécologue, le docteur Patrick Septo, et un biologiste, le professeur Robert Edwards, qui donc ont permis la naissance de Louise Brown en 1978. Aujourd'hui, la fécondation in vitro, ça a permis la naissance de plus de 5 millions d'enfants dans le monde, dont 400 000 en France. Donc vous voyez le développement de cette technique. Et d'ailleurs, Bob Edwards a obtenu le prix Nobel en 2010 pour le développement de la fécondation in vitro. juste pour, voilà, pour information, son collègue Patrice Tepto ne l'a pas obtenu parce qu'en fait, le prix Nobel n'est donné qu'aux personnes vivantes. Et que le docteur Tepto étant mort, donc du coup, il n'y a que Bob Edwards qui a obtenu le prix Nobel. Donc la fécondation in vitro, c'est quoi? C'est qu'on va prendre le gamète femelle et on va le mettre en contact avec les spermatozoïdes. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai montré ici, vous voyez ici cette grosse cellule ici que vous devinez là, c'est l'ovocyte. Sauf que là, l'ovocyte, il est entouré de toutes ces petites cellules qui sont les cellules du cumulus et qui le protègent. Parce qu'en fait, au moment de l'ovulation, quand l'ovocyte est expulsé, il est expulsé avec un, ce qu'on appelle c'est un complexe cumulo-ovocytaire qui va être libéré. Et donc, en fait, l'ovocyte n'est pas directement accessible aux spermatozoïdes. Et c'est pour ça qu'il faut plusieurs millions de spermatozoïdes. Je remets les... Voilà. C'est pour ça qu'il faut plusieurs millions de spermatozoïdes pour pouvoir féconder un seul ovocyte. Vous voyez, les spermatozoïdes, vous les devinez ici, on les voit bouger. On les voit, voilà, on les voit bouger ici. Toutes ces petites bestioles qui bougent là sont des spermatozoïdes. Entre les grosses cellules, là sont les cellules de la granulosa. Et c'est pour ça qu'il faut plusieurs millions de spermatozoïdes, parce qu'il va falloir que un maximum de spermatozoïdes libèrent des enzymes lytiques qui vont permettre de dissocier les cellules de la granulosa pour qu'un seul spermatozoïde puisse rejoindre l'ovocyte et féconder l'ovocyte. C'est vraiment un travail d'équipe. Et le problème, c'est qu'il en faut plusieurs millions par voie naturelle. Et pour faire une fécondation in vitro comme l'avait réalisé, ça avait été réalisé en 1978, il en fallait quand même au moins plusieurs milliers. C'est-à-dire qu'on mettait plusieurs milliers de spermatozoïdes en contact avec l'ovocyte. Le problème, c'est qu'il y a certains hommes qui n'ont même pas plusieurs milliers de spermatozoïdes. Ils n'en ont que quelques-uns. De très très rares spermatozoïdes. Des fois même qu'on est obligé d'aller récupérer par une biopsie testiculaire pour obtenir quelques cellules germinales mâles. Et c'est pour ça qu'en 92, il y a eu un très gros progrès dans la prise en charge des infertilités masculines. C'est la micro-injection, donc l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde, ou ce qu'on appelle également l'ICSI, qui permet justement maintenant de pouvoir prendre en charge des hommes qui ont très peu de spermatozoïdes, parce qu'on va encore plus leur faciliter le travail. Donc là, normalement... Normalement, il y avait un petit film pour vous montrer. Alors, hop, voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, ce qu'on peut proposer aux hommes qui ont très très peu de spermatozoïdes, qui auparavant étaient considérés comme étant stériles, eh ben, on peut leur proposer d'éviter toute cette partie nécessaire de séparer toutes les cellules de la granulosa. En fait, tout ça, ça a déjà été fait au préalable au laboratoire. Vous voyez que l'ovocyte, à présent, est complètement décoronisé. Il n'y a plus de cellules de la granulosa. On voit très bien la cellule. Et on va micro-injecter directement le spermatozoïde. Vous voyez, on crée une brèche dans la membrane plasmique, ici, de la cellule. On va même aspirer un petit peu de cytoplasme. Et vous voyez ici le spermatozoïde qui est là et qui va être réinjecté au centre de l'ovocyte. Et ensuite, voilà, la pipette est retirée délicatement. Il y a quand même encore la trace ici de la brèche. Et voilà. Et donc là, vous avez un ovocyte qui vient d'être micro-injecté. Et cet ovocyte micro-injecté, eh ben, il va s'activer, reprendre sa méiose et commencer sa première division et son développement. Donc, avec cette technique, donc la micro-injection, donc l'ICSI qui date de 1992, aujourd'hui, on peut prendre en charge des hommes qui, auparavant, étaient considérés comme stériles. Et donc, dans certains cas, notamment les stérilités qui sont liées notamment à une anomalie du chromosome Y, on sait que certains hommes sont porteurs d'une microdélétion du chromosome Y, c'est un petit fragment du chromosome qui est absent. C'est une anomalie qui est fréquente chez les hommes infertiles. Bah, le chromosome Y, il est transmis de père en fils. Messieurs, vous avez le même chromosome Y que votre papa. Et donc, si le papa a un chromosome Y qui est délété, ben, il va forcément transmettre le chromosome Y délété à son fils. Et donc, du coup, ça transmet la stérilité, ce qui est un paradoxe, parce que de fait, la stérilité, on n'est pas censé se reproduire. Alors, vous voyez que ces différentes étapes permettent la manipulation de l'embryon. Pourquoi ? Parce que physiologiquement, quand il y a eu l'ovulation, l'ovocyte libéré dans les trompes va être fécondé. Vous voyez ici au niveau de la trompe. Là, ici, on a le zygote. Et puis, une fois qu'il est fécondé, le zygote va se diviser en deux cellules, deux blastomères, puis quatre, puis huit, puis ensuite une petite mûre, ce qu'on appelle une morula. Et puis ensuite, il y a formation d'une cavité, qu'on appelle le blastocèle. Et donc, cette structure ici est appelée le blastocyste, hein, au cinquième, sixième jour du développement. Et c'est à partir du sixième, septième jour que l'embryon est arrivé au niveau de la cavité utérine et qu'il va... Ben, il va sortir de la zone pellucide que je vous ai montrée tout à l'heure, qui protégeait la cellule jusqu'à présent, parce que la zone pellucide qui est là, vous voyez, elle va se fragiliser au fur et à mesure du développement cellulaire. Là, elle va se rompre et l'embryon va sortir de cette zone pellucide. On va parler d'éclosion embryonnaire. Et le fait de sortir de la zone pellucide va lui permettre d'aller s'accrocher dans la muqueuse utérine. C'est ce qu'on appelle l'implantation. Et donc, vous remarquez que ben, tout ce développement, ici, qui prend 7 jours, vous voyez, ben là, l'embryon est libre. Il est en liberté. Il n'est pas implanté, il n'a pas de liaison avec des structures environnantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle, on ne parle pas vraiment d'embryon, mais on parle de pré-embryon. Les embryologistes parlent de pré-embryon. Parce qu'il n'y a pas encore de contact avec la muqueuse maternelle, il n'y a pas encore de relation développementale. Alors, aujourd'hui, quand on prend en charge un couple qui présente une infertilité, on va les prendre en charge en fécondation in vitro. Ben, en fait, ça veut dire quoi, prendre en charge en fécondation in vitro ? Ça veut dire qu'on va d'abord stimuler les ovaires de la patiente. Donc, vous voyez que les ovaires, au lieu de produire un seul ovocyte mature, il va en produire plusieurs de chaque côté. Donc, ça implique une stimulation avec des injections hormonales, hein, des injections d'hormones pendant une dizaine de jours. Ensuite, il va y avoir ponction de ces ovocytes. On ne va pas les laisser, on ne va pas attendre qu'ils soient libérés directement dans les trompes, mais on va aller les ponctionner directement. En général, c'est par voie vaginale. On va les ponctionner par voie vaginale l'intérieur de ces follicules et récupérer les ovocytes matures. Et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré... Donc, ce qu'on récupère, c'est le complexe cumulo-ovocytaire. Hein. On décoronise l'ovocyte, on micro-injecte cet ovocyte. Et cet ovocyte va se développer, vous voyez, avec d'abord le stade d'une seule cellule, c'est le stade zygote, avec, vous voyez ici, les deux pronoyaux, le pronucléus femelle et le pronucléus mâle. Ce ne sont pas des noyaux, ce sont des pronoyaux, chacun contenant 23 chromosomes. Deux fois moins de chromosomes que les autres cellules de l'organisme. Et puis, ce zygote va se diviser. Donc, la première division, le premier clivage qui a lieu à la 25e heure, vous voyez, avec deux belles cellules, hein, qu'on appelle des blastomères. Puis, ces deux cellules vont à nouveau se diviser. On obtient quatre cellules. Ces quatre cellules vont à nouveau se diviser. On obtient huit cellules. Donc, vous voyez, au troisième jour du développement, l'embryon humain est composé de huit cellules. Et puis, vous voyez, cinquième, sixième jour, ben, c'est le stade blastocyste. C'est-à-dire que vous avez déjà deux types de cellules différents, avec ici les cellules du bouton embryonnaire à la masse cellulaire interne, et ici les cellules trophectodermes qui seront nécessaires pour le développement des annexes et du placenta. Donc tout ça se passe en laboratoire. Et au terme du développement de l'embryon, quand ce blastocyste s'est bien développé, on va le transférer à l'aide d'un cathéter très fin, on va aller le transférer dans la cavité utérine de la maman. Et là, on va le déposer dans la cavité, et c'est un petit peu la boîte noire, parce qu'une fois qu'on a déposé l'embryon, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour que le dialogue se passe de façon optimale. Donc on donne quand même un traitement hormonal à la maman pour préparer la muqueuse endométriale, pour que l'endomètre soit bien favorable. On essaye de cerner la fenêtre d'implantation, qui est vraiment cette fenêtre où il y a un dialogue entre l'embryon et l'endomètre, et la muqueuse de la maman. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui reste encore à explorer. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans ce domaine. Par contre, la culture en laboratoire, ça maintenant, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé, qui est bien connu. Vous voyez, on sait qu'il faut travailler toujours à température constante, à 37 degrés. Et l'embryon, vous voyez, va se développer dans des petites boîtes à quatre puits, comme ça, on a du milieu de culture, dans lesquelles vous avez les embryons qui sont stockés ici, dans des incubateurs à 37 degrés, dans des conditions bien définies. Et on a de plus en plus d'informations sur les conditions optimales pour cultiver les embryons in vitro. Et donc, vous voyez, là, vous avez un beau zygote qui se divise, deux blastomères. Puis ces deux blastomères vont eux-mêmes se diviser. Et donc, on va obtenir, vous voyez, quatre cellules. Et ces quatre cellules vont elles-mêmes se diviser. Et on va obtenir huit cellules. Vous remarquerez l'épaisseur de la zone pellucide ici. Vous voyez que toutes les divisions cellulaires ont lieu au sein de cette zone pellucide qui protège, en fait, la structure embryonnaire. Et progressivement, bah, la cavité du blastocèle va se former, le liquide va venir s'infiltrer entre les cellules ici, et vous allez avoir une formation d'une cavité. Les cellules qui augmentent aussi, du coup, bah, quand même, elles augmentent, elles vont avoir tendance à pousser un petit peu contre la zone pellucide, et vous allez remarquer que la zone pellucide va progressivement s'amincir. Le blastocèle qui se développe ici, la zone pellucide qui s'amincit, et du coup, ça va permettre l'éclosion de l'embryon. Et donc là, vous voyez, c'est ce que l'on filme au sein du laboratoire, hein, quand on cultive les embryons in vitro. Et donc là, vous venez de voir le début de la vie. Hein, c'est un embryon qui aura donné un bébé. Et donc, c'est vraiment le début de la vie qui vient d'être filmé. Donc, vous voyez, c'est quand même magique. Hein. Donc, si on remet dans le contexte la naissance de Louise Brown en 1978, donc c'est une naissance qui a eu lieu en Angleterre. Par contre, il faut savoir que 4 ans avant, en France, ben, c'était déjà le début des sécos, hein, avec la prise en charge en don de gamètes, en particulier en don de spermatozoïdes chez les hommes infertiles. Et 4 ans plus tard, c'est la naissance d'Amandine, le premier bébé FIV. Et puis après, les choses vont aller très vite. En 1983, c'est la première naissance suite à la congélation d'un embryon. Donc un embryon congelé, qui va être décongelé, qui va être transféré dans l'utérus de la maman et qui va donner la naissance d'un bébé qui va très bien. En 84, c'est la première naissance par don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'on va utiliser un ovocyte d'une dame qu'on va féconder avec le sperme d'une autre dame, et ensuite on va transférer l'embryon dans l'utérus de la patiente. D'accord ? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le don d'ovocytes. Puis en 92, ben, l'ICSI, je vous en ai déjà parlé. En 1999, développement d'une nouvelle technique de congélation efficace sur les embryons, mais surtout efficace sur les ovocytes, parce que si dès les années 70 on arrivait très bien à congeler les spermatozoïdes, qui sont des petites cellules qui sont très résistantes au froid, l'ovocyte, c'est une grosse cellule qui, elle, était très sensible à la congélation. Les cristaux de glace qui se formaient faisaient exploser la cellule et entraînaient une mort cellulaire. Donc du coup, on n'arrivait pas à bien congeler les ovocytes. Par contre, on arrivait à congeler les embryons, vous voyez, puisque la première naissance a eu lieu en 83, les embryons qui sont constitués de cellules qui se divisent par mitose et qui étaient assez résistantes à la congélation, mais pas les ovocytes. Et ça n'est qu'avec l'avènement de la vitrification, en 1999, qui est une méthode de congélation ultra rapide et qui permet de préserver les composants cytoplasmiques ovocytaires. Et cette technique de vitrification ovocytaire n'a été autorisée en France qu'en 2011. Et ce n'est que depuis 2011 qu'on peut aujourd'hui vitrifier des ovocytes de façon relativement sécure. En 2018, c'est les 40 ans de Louise Brown. C'est une jeune femme qui est à son tour maman de deux enfants. Et en 2021, bah, c'est le voilà, c'est l'avènement de la nouvelle loi de bioéthique, avec là aussi une modification sociétale, avec prise en charge des couples de femmes, des femmes non mariées, et l'autoconservation ovocytaire, qui jusqu'à présent était interdite en France. Donc un petit mot sur la congélation embryonnaire. En fait, la congélation embryonnaire, vous voyez, on congèle gamètes et embryons dans des petites paillettes. Ces paillettes sont ensuite plongées dans l'azote. Donc là, ici, vous voyez, vous avez des canistères qui contiennent toutes ces paillettes, qui sont rangées les unes dans les autres, comme ça. Et ces canistères sont eux-mêmes rangés dans des grosses cuves. Donc toute cette pièce-là est remplie de cuves d'azote. Donc ça implique une infrastructure extrêmement lourde, parce que il y a toujours un risque quand même quand on manipule de l'azote liquide, surtout à des grosses concentrations. Et donc du coup, voilà, ça implique, il y a de plus en plus de normes qui nous sont imposées pour avoir un maximum de sécurité aujourd'hui dans nos pratiques. Et la vitrification ovocytaire, hein, dont je viens vous parler, ben vous voyez, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on va plonger l'ovocyte dans l'azote. Donc l'azote, c'est comme de l'eau, hein, ça paraît liquide. Ça ressemble ici à de l'eau, vous voyez, sauf que c'est extrêmement froid, hein, c'est moins 196 degrés. Mais auparavant, on aura fait subir à cet ovocyte, vous voyez, qui est bien arrondi, régulier, on va lui faire passer différents bains de cryoprotecteurs à des doses très, très importantes, très concentrées et très importantes. Et ensuite, on va, donc, vous voyez, on le passe de goutte en goutte, et puis ensuite, on va le monter dans cette paillette et on va le plonger dans l'azote. Et en fait, vous voyez, un ovocyte vitrifié, bah, il s'est bien contracté. Vous voyez, ça, c'est un ovocyte qui n'est pas vitrifié. C'est un ovocyte qui est vitrifié. En fait, on lui a retiré beaucoup d'eau. Et voilà, et on a mis beaucoup de cryoprotecteurs autour de lui, qui fait que bah, il va résister à la congélation. Et il va pouvoir ensuite être ce qu'on appelle nous réchauffer. Et pouvoir ensuite être fécondé quand il y aura besoin, quand il y aura un projet parental. Alors tout ça, c'est encadré par la loi de bioéthique. La loi de bioéthique, en fait, elle s'est mise en place en 1994. Et c'est à partir de 1994 que toute cette activité a été extrêmement encadrée par le législateur. Avant 1994, il n'y avait pas d'encadrement. Mais par contre, cette loi de bioéthique, dès qu'elle a été mise en place, elle a tout de suite évoqué la notion de développement des avancées de la science et qu'il fallait que la loi puisse suivre aussi les avancées de la science. Et donc, il avait été prévu dès le départ que cette loi soit révisée. Et donc, elle a été révisée et une nouvelle loi a été établie en 2004 et puis une autre en 2011 et enfin une toute dernière très récente, celle de 2021. Celle de 2021 a été mise en place après toute une étape de discussion au niveau de la société. Dans toute la France, hein, sur tout le territoire national, vous avez eu des manifestations avec des discussions avec les membres notamment du Conseil national d'éthique pour avoir un peu le ressenti de la population concernant ces sujets. Alors, cette nouvelle loi de bioéthique de 2021, qu'est-ce qu'elle change concernant l'assistance médicale à la procréation? Alors, premier gros changement, l'AMP avec ou sans don est désormais accessible pour toutes les femmes, qu'elles soient en couple avec un homme, qu'elles soient en couple avec une femme ou qu'elles soient non mariées. Dans tous les cas, les personnes receveuses doivent être en âge de procréer et faire leur démarche dans le cadre médical et légal de l'assistance médicale à la procréation. La loi prévoit l'interdiction de toute discrimination dans la prise en charge, notamment au regard du statut matrimonial et de l'orientation sexuelle des demandeurs. Deuxième grosse modification de cette loi, toujours concernant l'assistance médicale à la procréation, c'est que la congélation, parce qu'on congèle très bien les spermatozoïdes, maintenant on congèle très bien les ovocytes, et donc c'est vrai que dès le départ des banques de sperme, on a commencé à congeler les gamètes des personnes qui allaient avoir un traitement qui allait les rendre stériles, potentiellement stérilisants. Et donc, jusqu'en 2021, c'était la seule indication à l'autoconservation de gamètes. Mais depuis la nouvelle loi, l'autoconservation des gamètes n'est plus soumise à une indication médicale. C'est-à-dire que la congélation et la conservation de ses propres gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, qu'on garde au froid et qu'on va utiliser plus tard, est désormais possible pour les femmes. Donc les femmes à partir de 29 ans et avant 37 ans, pour les hommes à partir de 29 ans et avant 45 ans. Ça, c'est pour la congélation. Après, il y a l'utilisation. L'utilisation, ben, ces gamètes pourront alors être utilisés jusqu'à 45 ans révolus pour les femmes et jusqu'à 60 ans révolus pour les hommes. Donc là aussi, c'est un gros changement pour nous, parce que jusqu'à présent, on prenait en charge les patientes en AMP que jusqu'à leur 43e anniversaire. Là, en l'occurrence, avec cette nouvelle loi et avec cette autorisation d'autoconservation, les patientes pourront bénéficier de l'utilisation de leurs gamètes jusqu'à leur 45e anniversaire. Enfin, dernier point aussi crucial de cette nouvelle loi de bioéthique, c'est un point qui concerne des personnes majeures nées d'un don qui réclamaient d'avoir accès à leurs origines. Et donc, pour aider certaines personnes qui sont dans cette quête de leur origine, eh bien, ces personnes-là, si elles le souhaitent, et à leur majorité, elles pourront accéder aux données non identifiantes et à l'identité de la donneuse ou du donneur. Ces données sont strictement personnelles. A contrario, les donneurs, eux, n'auront aucune information sur les personnes nées de leur don. Et donc, à partir de septembre 2022, tous les donneurs de gamètes devront expressément avoir consenti la transmission de leurs données aux personnes issues de leur don, si celles-ci en font leur demande, à partir de leur majorité. S'ils ne le veulent pas, ils ne peuvent pas être donneurs de gamètes. Donc, le domaine de la fécondation, vous voyez, c'est bien développé, mais en parallèle, vous avez aussi eu une évolution dans le domaine de la génétique, notamment au niveau de l'ADN. L'ADN, je vous rappelle que c'est une structure en double hélice qui avait été initialement déjà plus ou moins identifiée par cristallographie aux rayons X sur ce cliché ici qu'on appelle le cliché 51 obtenu par Rosalind Franklin en 52, et c'est ce cliché qui a permis à Watson et Crick de décrire et d'établir la structure de cette double hélice, et ils ont pu obtenir le prix Nobel en 1962. Cette double hélice, elle a été décortiquée, séquencée, analysée, c'est-à-dire qu'on pouvait lire la séquence nucléotidique grâce à une technique de séquençage qui a été établie par Frédéric Sanger en 1977. Et c'est une technique de référence, d'analyse de l'ADN, et c'est pour cela qu'il a obtenu lui aussi le prix Nobel de chimie en 1980. Pour la petite histoire, ce monsieur, il est quand même remarquable parce qu'il aura obtenu 2 prix Nobel dans sa vie. 20 ans auparavant, il avait travaillé sur l'insuline avec des travaux qui lui ont permis d'avoir un premier prix Nobel. Et voilà. Et après, en 1980, il obtient un deuxième prix Nobel. En 1990, il y a le démarrage du projet d'analyse de séquençage de l'ensemble du génome humain. Donc c'est un projet qui commence en 1990 et qui s'achèvera en 2003 et qui va permettre comme ça d'établir la séquence l'intégralité du séquençage de tous les chromosomes du caryotype humain. Et là, effectivement, on a été un peu surpris, on s'est rendu compte que le génome humain ne contenait que 20 000 gènes, on pensait qu'il y en aurait plus par rapport à d'autres espèces, mais voilà, on a été surpris du faible nombre de gènes retrouvés. Mais du coup, on s'intéresse maintenant à toutes les parties entre les gènes, dont on sait qu'elles sont elles ont des fonctions de régulation qui sont extrêmement importantes et qu'on est à peine en train de découvrir. Et puis, donc, depuis 2003, les techniques de séquençage, initialement par la technique de Sanger, s'est beaucoup développée. Il y a eu tout un développement dans cette technique d'analyse de la lecture de l'ADN. Et notamment à l'aide de l'intelligence artificielle, on est aujourd'hui en mesure de séquencer le génome de chacun d'entre nous pour un coût très très abordable. Alors ces progrès en génétique, ils ont été appliqués sur l'embryon humain. Et en fait, on peut prélever des cellules de l'embryon sans léser son développement ultérieur et analyser le contenu génétique de ces cellules. Donc soit on prélève les deux globules polaires ici, soit on prend une cellule, une ou deux cellules, au stade, quand il y a 8 cellules, on en prend une ou deux. Ou alors, au niveau du trophectoderme, on peut en prendre un peu plus, vous voyez, 5 à 10 cellules. Mais tout ça, ce sont des cellules qu'on va pouvoir analyser génétiquement. On va analyser leur contenu en ADN. Et comme on a analysé une de ces cellules, on va supposer que, si toutes les cellules sont si la cellule est indemne, l'embryon est indemne, et on va pouvoir le transférer et obtenir un bébé. Et puis si on a deux ou trois autres embryons qui sont également indemnes, comme on ne va pas transférer plusieurs embryons à la fois, parce qu'on veut éviter les grossesses multiples, on va les congeler. Par contre, si on s'aperçoit que la cellule est porteuse d'une anomalie génétique, à ce moment-là, on va les détruire et ne pas les transférer. Le problème, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des mosaïques. Et ça, c'est vraiment une des particularités de la génétique. C'est qu'au moment du développement de l'embryon, il y a un événement qui va survenir dans une des cellules, dans un des blastomères, mais pas dans les autres. Et donc, du coup, toutes les cellules qui seront issues de ce blastomère qui présente une anomalie, auront l'anomalie. Mais pour peu que le diagnostic préimplantatoire soit fait sur cette cellule ici, qui, elle, n'est pas porteuse de l'anomalie, on va rendre un diagnostic qui sera faux. Parce qu'on va dire, on a analysé cette cellule-là, elle est normale, on va la transférer, mais en fait, non, parce que l'embryon est effectivement malade. À l'inverse, si on prend... il faut tomber sur la cellule mutée pour pouvoir vraiment diagnostiquer le bon embryon porteur de l'anomalie. Donc cette notion de mosaïque, c'est un vrai problème. Et en fonction du nombre de cellules anormales, la personne sera plus ou moins malade en fonction de l'anomalie génétique. Donc si l'embryon présente un blastomère, un ou deux blastomères mutés, le bébé aura quelques cellules mutées et l'individu adulte aura également certaines cellules dans certains tissus qui seront mutées, alors que les autres cellules, elles, seront normales. Et donc, aujourd'hui, à l'heure du séquençage individuel, très facile, c'est vraiment le scénario du film Bienvenue à Gattaca, qui est sorti en 1997. En 1997, on pensait vraiment que c'était de la science-fiction. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment ce qui est tout à fait réalisable actuellement, puisqu'on peut séquencer sans problème le génome de chacun d'entre nous. Donc du coup, on peut choisir les individus en fonction de critères différents. Surtout que maintenant, on sait que dans notre ADN, on peut connaître les variants qui sont à l'origine d'une susceptibilité de maladies neurodégénératives. On connaît également des variants génétiques qui sont à risque de maladies cardiovasculaires, voire même l'espérance de vie. Et donc, il suffit de sélectionner les embryons qui ne sont pas porteurs de ces variants pour avoir des individus qui seraient un peu augmentés. Enfin, troisième partie, la biologie cellulaire. Là encore, c'est un domaine qui a beaucoup, beaucoup évolué. Le domaine dont je vais vous parler se base surtout sur le transfert de noyaux. Le transfert de noyaux, c'est-à-dire que vous avez une cellule, donc sa membrane plasmique, ici en vert, le cytoplasme, le noyau, et puis en blanc, là, je vous ai dessiné des chromosomes. Et donc, vous avez 23 paires de chromosomes, hein, vous avez le lobe paternel et le lobe maternel. Donc, 23 paires de chromosomes, on parle d'une cellule somatique diploïde. Et puis, vous avez l'ovocyte. L'ovocyte, donc, c'est une cellule qui, elle, est haploïde, parce qu'elle a déjà une partie de ses chromosomes, donc 23 chromosomes ici, dans le premier globule polaire, et qu'elle a ici ses 23 chromosomes ici, en regard de ce globule polaire. Au moment de la fécondation, la moitié du contenu d'ADN ici de ces chromosomes va être expulsée dans un second globule polaire. Donc, cet ovocyte, c'est une cellule germinale qui contient 23 chromosomes ou haploïdes. Mais par contre, sa particularité, c'est qu'elle a un très gros cytoplasme, c'est la plus grosse cellule de l'organisme, un très gros cytoplasme bourré d'informations maternelles nécessaires aux premières divisions de l'embryon. Les premiers stades de développement de l'embryon se font uniquement sur les réserves du stock maternel ovocytaire. Donc ce cytoplasme-là, c'est un cytoplasme d'une cellule un peu magique. Et donc en fait, le transfert de noyau, c'est quoi ? On retire les 23 chromosomes qui étaient encore présents dans l'ovocyte et on va les remplacer par, du coup, l'ovocyte n'a plus de noyau, il a zéro chromosome, et on va le remplacer par les 46 chromosomes d'une autre cellule prélevée sur un autre individu ou sur un autre tissu. Et c'est ça la magie de l'ovocyte, c'est que c'est une cellule qui, il suffit de mettre un petit coup d'électricité, un petit électrochoc, et toute la machinerie cellulaire va accepter de répondre au contrôle des signaux de ce noyau qui provient d'une autre cellule. Et donc, c'est comme ça qu'a eu lieu le premier clonage. Donc, c'était dans les années 50. Déjà, un petit peu avant, une dizaine d'années avant, il y avait déjà eu des premières expériences. Mais l'histoire va surtout retenir l'expérience réalisée par John Gordon. Encore là, chez la grenouille. Pourquoi chez la grenouille ? Parce que la grenouille a des ovocytes très gros, donc c'est facilement analysable. Et donc, il a retiré le contenu génétique de ces ovocytes de grenouille et il a transféré le noyau de cellules. Alors là, vous voyez, ça, ce sont des cellules d'un épithélium intestinal. En fait, un épithélium intestinal, vous voyez, ce sont des cellules qui sont très différenciées. Vous avez ici le pôle apical, ici avec des villosités, là. Ici, enfin ici, vous voyez le pôle apical, le pôle basal, et ici, vous avez les noyaux des cellules. Ce sont des cellules qui sont extrêmement bien différenciées, des cellules de l'intestin. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le noyau d'une de ces cellules et il l'a transféré dans l'ovocyte. Et le noyau de la cellule intestinale a pris le contrôle de la machinerie cellulaire de l'ovocyte. Ça a permis d'obtenir des têtards. Et en 97, le clonage a pu être réalisé sur un mammifère. Donc le premier mammifère à être cloné, ça a été une brebis, avec Yann Wilmuth et Kate Campbell. Et en fait, c'était assez compliqué parce qu'il fallait arriver à coordonner les cycles cellulaires quand on manipule le noyau d'une cellule déjà différenciée et un ovocyte. Et en coordonnant précisément les cycles cellulaires, il a réussi un clonage. Mais pour bien vous rendre compte de l'efficacité de cette technique, il a fallu 430 tentatives pour obtenir un embryon qui va donner cette brebis. 430 tentatives. Donc, c'est-à-dire que c'est une technique qui marche, mais qui est très difficile à mettre en œuvre quand même. Alors, en 97, c'était la brebis qui a été clonée. Puis ensuite, ça va très vite aussi. En 98, c'est la vache, puis la souris, puis la chèvre, puis en 2000, c'est le cochon, puis en 2002, c'est le chat, en 2002 encore le lapin, en 2005, le chien. Et donc, vous allez me dire, et chez l'humain ? Chez l'humain, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a besoin d'une femme qui donne des ovocytes. En théorie, c'est-à-dire que vous avez une femme qui va donner un ovocyte dont on va retirer le contenu génétique et on va prendre des cellules somatiques, alors soit d'un individu malade, par exemple, ou soit pour lequel on voudrait récupérer des cellules et essayer de créer un traitement un peu particulier, soit pour reproduire un individu entier. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on transfère le noyau de la cellule dans cet ovocyte énucléé. L'ovocyte va prendre le contrôle de l'ovocyte, l'activer. Vous avez la première division qui a lieu et on obtient un embryon qui se développe, le blastocyste ici, et ces cellules qui sont les cellules de la masse cellulaire interne. Donc ce sont ces cellules qui sont qu'on appelle des cellules pluripotentes parce qu'elles sont capables de donner tous les tissus de l'individu. Donc on peut prélever ces cellules et puis on les dérive. On va avoir des cellules souches embryonnaires et dans ce cadre-là, ce sera le clonage thérapeutique pour essayer de mettre en place un traitement. Ou alors, si on prend ce blastocyste-là et qu'on le transfère dans l'utérus d'une dame, d'une mère porteuse, ben on pourra éventuellement avoir un clonage reproductif. Mais ça, clairement, c'est interdit par tous les moratoires internationaux. Donc, vous voyez, en 97, clonage de la brebis. Mais en biologie cellulaire, il y a d'autres avancées aussi qui vont avoir lieu, importantes, notamment en 98. Il y a la notion de pluripotence de ces cellules souches embryonnaires qui est mise en évidence. C'est-à-dire qu'en 98, on va être capable d'isoler ces cellules ici de la masse cellulaire interne et de pouvoir les cultiver en laboratoire. Et donc ça a pu être réalisé en travaillant sur 36 embryons humains, 36 blastocystes humains. Et en fait, vous voyez, cette totipotence ici, la totipotence, c'est en fait la possibilité de la cellule, avec une cellule, vous êtes capable d'obtenir un individu entier. Mais à partir du stade blastocyste, les cellules commencent à se différencier. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis deux couleurs, il y a une couleur en bleu et une couleur en rouge, parce que les cellules ne vont pas avoir le même devenir. Et donc il y a déjà un début de différenciation avec ici les cellules de la masse cellulaire interne et ici les cellules du trophectoderme. Donc avec la pluripotence, on est en mesure de pouvoir prendre les cellules de la masse cellulaire interne, de les cultiver dans une boîte de pétri et en fonction du milieu de culture dans lequel vous allez les mettre, c'est-à-dire en fonction des facteurs, les facteurs avec lesquels vous allez les mettre en contact, ces cellules, comme elles sont capables de donner tous les tissus de l'individu, et ben du coup, en fonction du milieu dans lequel vous les avez mis, vous pouvez obtenir des cellules nerveuses, des cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules de la peau, des fibroblastes, des globules rouges, des cellules du foie, des cardiomyocytes. Les cardiomyocytes sont les cellules du cœur. Donc c'est magique parce que vous voyez dans la boîte, vous voyez des petites cellules qui se contractent, comme un petit cœur qui bat, sauf que vous voyez dans la boîte. Donc c'était vraiment extraordinaire. Alors, ce qui est important, vous voyez, c'est que ces cellules souches embryonnaires, ici, les cellules ES, elles sont pluripotentes parce qu'elles peuvent donner différents types de tissus, mais elles vont pouvoir se différencier en un type cellulaire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il est possible d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de prendre une cellule différenciée et de la dédifférencier, ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire. La reprogrammation cellulaire, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Mais voyez que ces cellules souches, c'est un vecteur d'espoir thérapeutique important parce qu'on voilà, on peut espérer soigner plein de maladies, hein, au niveau de la moelle épinière, au niveau du sang, au niveau des maladies neurodégénératives, au niveau du cœur, au niveau des maladies du muscle, de l'os, du cartilage, du foie, de la peau, et puis du pancréas, le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui est très fréquente. Et le diabète, vous voyez, ça c'est un article du New York Times de novembre 2021, donc c'est tout récent. Et ben, ce monsieur, c'est la première personne à avoir reçu des cellules souches qui vont venir remplacer le tissu pancréatique malade et donc le guérir de son diabète. Donc voilà, c'est un formidable espoir thérapeutique à partir de ces cellules souches embryonnaires. Et donc, je vous ai parlé de reprogrammation tout à l'heure, je vous ai parlé de la différenciation et de la reprogrammation. Effectivement, en 2006, eh ben, on arrive à reprogrammer les cellules. En 2006, avec les travaux de Shinya Yamanaka, qui va mettre en évidence des cellules qu'on appelle les cellules iPS. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec ses travaux sur les cellules iPS, John Gordon et lui ont obtenu le prix Nobel de physiologie en 2012. Alors, c'est quoi les cellules iPS ? Cellules iPS, ça veut dire cellules souches pluripotentes induites. C'est-à-dire qu'au départ, la cellule va être différenciée et on va la dédifférencier pour devenir pluripotente. Ça veut dire que vous prenez une cellule de la peau et vous allez réavoir une cellule souche. Vous prenez une cellule du foie, vous allez avoir une cellule souche. Une cellule différenciée va être reprogrammée en cellule pluripotente. Et ce que Yamanaka a mis en évidence, c'est qu'il suffisait de modifier 4 gènes, qui sont des gènes importants pour la pluripotence. Et en modifiant ces 4 gènes, on obtenait une cellule à nouveau pluripotente. Et cette cellule pluripotente, on pouvait à nouveau la cultiver et l'orienter dans un autre devenir. Donc vous voyez, on pouvait obtenir des neurones, des globules rouges, voire des gamètes. Voir des gamètes, ça, c'est pas encore gagné. Pourquoi ? Parce que les gamètes, comme je vous l'ai dit, ils ont 2 fois moins de chromosomes que les autres cellules de l'organisme. Ça passe par un mécanisme qu'on appelle la méiose, et ça, c'est encore compliqué à effectuer in vitro. Et puis, il y a un autre mécanisme aussi, qui est l'empreinte parentale, parce qu'en fait, les marques épigénétiques qui sont portées par certains gènes doivent être exprimés d'une certaine façon quand ça provient de la maman et sont exprimés d'une autre façon quand ils proviennent du papa. Et ça, ces marques épigénétiques aussi sont compliquées à réguler. Et enfin, en 2022, qu'est-ce qu'on prévoit pour 2022 ? C'est la gamétogénèse in vitro, c'est-à-dire qu'on va produire des gamètes en laboratoire. Et ça, vous voyez, c'est peut-être le futur, parce que vous avez une boîte américaine, une start-up, qui propose de développer un ovocyte à partir de cellules du sang. Et donc, en fait, ça permettrait aux femmes stériles, aux couples de même sexe, voire aux personnes seules, de pouvoir avoir un enfant qui soit génétiquement lié. Donc, ça limiterait... il n'y aurait plus de restrictions d'âge. Et puis, à ce moment-là, même avec une cellule d'un homme pourrait être transformée en ovocyte. Et ça permettrait aux couples d'hommes d'avoir des enfants. Et puis, c'est aussi le concept de bébé sur mesure. Hein, ça va être tellement facile de produire des milliers d'ovocytes. On n'est plus obligé de passer par des ovocytes d'une dame. On doit les ponctionner et stimuler, c'est très lourd. Là, ça ne serait même plus la peine. Ça permettrait d'avoir des productions d'embryons très facilement et de les sélectionner plus facilement. En tout cas, toujours est-il que, même si ce projet paraît complètement fou, cette start-up, elle a quand même levé 20 millions récemment pour développer ces techniques. Et si vous allez sur leur site, vous voyez bien qu'ils vous disent qu'ils comptent passer par des cellules du sang qu'ils vont générer des cellules iPS issues de cellules du sang. Donc en fait, voilà, avec une prise de sang, eh ben, ils vont vous fabriquer des ovocytes, en gros. Et ils se basent sur le fait que c'est déjà fait chez la souris. Et que chez la souris, vous avez des souris qui sont nées suite à des ovocytes issus comme ça de cellules iPS. Donc ce qu'ils vous disent, c'est que bah, comme ça a été fait, c'est mis en évidence chez la souris, nous on va travailler pour que ça se passe chez l'humain aussi. Bon, ils sont relativement optimistes, ils pensent avoir des résultats dans 15 ans. Donc on se revoit dans 15 ans et je vous donnerai des nouvelles. Voilà, grande révolution aussi dans le domaine, c'est cette révolution des ciseaux moléculaires avec CRISPR-Cas9, qui a été décrite en 2012 par ces deux jeunes femmes, Emmanuelle Charpentier qui est française et Jennifer Doudna qui est américaine, et qui ont obtenu le prix Nobel de chimie en 2020. Avec, suite à l'utilisation de cette technique justement sur l'embryon humain, deux bébés génétiquement modifiés en 2018. Donc en fait, en Chine, en 2018, vous avez eu la naissance de deux jumelles issues d'un couple et une autre petite fille qui est née d'un autre couple, qui ont été génétiquement modifiées. En fait, c'est quoi cette révolution CRISPR ? Ben, ce sont ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a un guide d'ARN, on a une endonucléase, et ce qui se passe, c'est que le guide d'ARN va aller cibler le gène d'intérêt, et la nucléase va aller couper, modifier le gène, et du coup, vous pouvez comme ça modifier votre séquence d'ADN de façon très très simple, très facile. Alors, la technique a été décrite en 2012, donc les choses vont très vite, hein. En 2015, il y a un premier papier qui dit, voilà, la technique marche sur les zygotes humains, mais dans ce papier, ils ont utilisé des zygotes qui n'étaient pas transférables parce qu'ils avaient trois pronoyaux, donc du coup, vous voyez, il y a un nombre de chromosomes anormal, ce sont des embryons qui ne sont pas viables de toute façon. Donc éthiquement, c'était encore acceptable. Et en tout cas, ça a été le premier papier qui montrait que cette technique CRISPR-Cas9 pouvait marcher. Elle pouvait marcher, elle modifiait les anomalies génétiques, mais du coup, ça a commencé à faire trembler un petit peu le monde scientifique, parce que si on touche aux zygotes, et bien du coup, on touche éventuellement à l'hérédité de cet individu. Et donc voilà, trois noyaux, on sait que c'est un zygote qui n'est pas viable, donc éthiquement, c'était encore acceptable. En 2017, un papier montre qu'en fait, ça n'est pas au stade zygote, mais c'est au moment de l'injection du spermatozoïde qu'il faut associer CRISPR-Cas9 pour avoir un bon timing et pour éviter d'avoir des mosaïques, pour que votre activité de réparation de l'ADN se fasse. Et en fait, vous voyez, quand on injecte CRISPR-Cas9 au stade de deux pronoyaux, on obtient des mosaïques. Alors que quand on injecte CRISPR-Cas9 en même temps que le spermatozoïde au moment de la micro-injection, on n'a pas de mosaïque. Donc en fait, c'est le bon timing pour... ce papier donne un peu la conduite à tenir pour que ça fonctionne bien. Et c'est exactement ce qu'a fait ce chercheur chinois. Il a exactement fait ça avec ces bébés qui sont nés. Et en fait, l'hypothèse de départ de ce chercheur, c'était de proposer cette manipulation génétique à des couples qui étaient porteurs, dont le papa était porteur du virus du sida. Il était VIH positif, et donc il leur a proposé cette manipulation génétique en leur disant, voilà, je vous propose de faire ça pour que vos enfants ne soient jamais atteints du sida. Vous savez comme c'est lourd d'être malade, ben comme ça votre enfant ne sera pas positif. Donc CCR5, c'est quoi ? C'est un récepteur sur la membrane. Oups, c'est un récepteur sur la membrane ici de cellules du système immunitaire. Et le VIH utilise ce récepteur pour infecter ces cellules. Et quand CCR5 est muté, il y a des individus qui ont une mutation à l'état spontanément qui sont mutés. Et on s'est aperçu que ces patients-là, ils avaient une résistance à l'infection par le VIH. Parce que, du coup, le virus ne peut pas se lier et ne peut pas pénétrer dans la cellule. Le problème, c'est que ce que ce chercheur n'a pas dit aux couples, c'est que, premièrement, les techniques d'AMP prennent en charge les couples qui ont le VIH, et on sait très bien comment faire des bébés sans que le bébé ait le VIH. Voilà, donc voilà, ça c'était pas un bon argument. Et le deuxième argument non plus qui n'a pas été fourni, c'est que il n'y a pas que CCR5, mais il y a aussi un autre CCR4, il y a un autre récepteur. Et donc voilà, si CCR5 est déficient, il y aura quand même CCR4 qui peut prendre le relais. Donc ce sont deux arguments qui n'étaient pas suffisamment rigoureux. Et il y a eu un peu une sorte de, voilà, de désinformation des couples quand ils ont donné leur accord. Et puis, quand on regarde, parce que un diagnostic préimplantatoire avait été réalisé sur les embryons, hein, avant leur transfert, et on sait que donc les deux petites filles, les deux jumelles issues du même couple, hein, qui sont prénommées par la presse Lulu et Nana, on sait qu'on a une petite fille qui a effectivement les deux copies du gène muté, mais il y en a une, par contre, qui n'a qu'une seule copie mutée. Ça veut dire que cette petite fille, elle reste susceptible d'être infectée par le VIH de toute façon, parce qu'il y a quand même une copie qui est encore valable et qui va permettre de synthétiser un récepteur normal. Et puis, on a également détecté des modifications hors cible, c'est-à-dire que il a ciblé CCR5, mais le problème, c'est que CRISPR-Cas9 peut aussi aller modifier des endroits différents qui ressemblent, parce qu'il y a beaucoup de séquences répétées dans l'ADN. Et donc, du coup, on sait qu'il y a au moins une insertion qui a été identifiée au niveau du chromosome 1. Et ce que disait le chercheur, c'est qu'en fait, cette insertion, elle est loin d'un gène connu, à au moins 279 kilobases, et elle n'affecte pas de facteur de transcription ni d'ARN non codant. Il est faussement rassurant. Et puis, surtout, c'est que même s'il a micro-injecté le spermatozoïde au moment avec le système CRISPR-Cas9, c'est-à-dire au bon moment, comme avait été rapporté dans le premier article que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, on suspecte le fait que, malgré tout, CRISPR-Cas9 a dû agir un petit peu plus tardivement après le premier clivage, et donc ça a dû forcément entraîner une mosaïque chez ces petites filles. Le problème, c'est qu'il y a eu une chape de plomb sur ces enfants. Les travaux n'ont pas réellement été publiés en tant que tels. On n'a pas vraiment d'informations scientifiques sur ces enfants. Voilà, l'université qui employait le chercheur ne l'a pas soutenu. Ce chercheur a écopé d'une grosse amende, hein, de l'ordre de plus de 300, une très grosse amende, et 3 ans de prison. 3 ans de prison, mais il va bientôt sortir, et là se pose justement la question de ce qui va devenir maintenant, à suivre. En tout cas, concernant ces effets hors site, qui étaient un facteur limitant, notamment en 2018, quand il a procédé à cette manipulation génétique. Aujourd'hui, vous voyez, on est en 2021. Aujourd'hui, c'est plus un problème, parce que avec l'intelligence artificielle, on est en mesure de pouvoir prédire les effets hors site si on réalise cette manipulation. Donc, vous voyez, en 3 ans de temps, les progrès sont phénoménaux. Et donc, je vous ai dit que CCR5, c'était un récepteur qui évitait la contamination par le VIH, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'en fait, il y a d'autres travaux qui ont montré que quand ce gène n'était pas actif, ça entraînait une amélioration de la mémoire chez les souris. Et que quand on avait des individus mutés ou qu'on inactivait ce gène par un médicament, les patients qui faisaient un accident vasculaire cérébral, ils avaient une meilleure récupération psychomotrice et cognitive. Ça veut dire qu'en modifiant CCR5, on modifie des éléments cognitifs de ces enfants. Est-ce que c'est un bébé OGM amélioré? Donc, dès 2005, hein, dès 2015, dès 2015, voilà, là c'était l'organe scientifique américain qui a vraiment posé son veto sur les recherches concernant la modification génétique des embryons humains. Et en France, dès 1994, de fait, la recherche sur les cellules souches et les embryons était interdite. En 2011, la France a ratifié la Convention internationale d'Oviedo qui interdit toute modification génétique transmissible à la descendance. Et en 2021, aujourd'hui, le texte facilite le travail sur les cellules souches embryonnaires et fait la distinction entre l'embryon dans son intégralité et les cellules souches, je vous ai dit celles qui sont isolées du bouton embryonnaire. Le texte fait vraiment la distinction entre les deux et facilite la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Alors, après avoir décrit la naissance des bébés, des jumelles, des bébés CRISPR-Cas9, il y a un scientifique russe qui avait décrété que lui aussi, il avait l'intention de le faire. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Et puis, du coup, tout est en train de s'emballer, à un tel point que les trois présidents des comités d'éthique allemands, anglais et français, dont le professeur Jean-François Delfrécy, ont lancé un appel aux autorités de tous les pays en demandant un contrôle par les autorités publiques compétentes, en disant qu'il fallait faire attention, qu'aucune application clinique ne devrait être envisagée tant qu'il n'y aura pas eu un large débat sociétal sur leur acceptabilité, que la recherche ne réduit pas forcément les risques de cette utilisation clinique, il faut repérer le niveau acceptable de ces manipulations. Il faut donc absolument mettre en place des mesures pour s'assurer que ces risques soient évalués et surveillés. Et surtout, eux, ils se posent aussi la question de l'accroissement des désavantages, de la discrimination et de la division dans la société, de réserver ces techniques à certaines personnes privilégiées et pas à d'autres. En tout cas, toujours est-il que CRISPR-Cas9, c'est des projets vertigineux. Là, vous avez, voyez, cette start-up là, qui a levé 195 millions de dollars pour développer cette technologie dans différents domaines, dans tout plein de domaines. Et là, je vous ai noté, vous voyez, là, vous allez avoir l'utilisation de CRISPR-Cas9 qui va être utilisée pour modifier le génome embryonnaire des porcs. En fait, on va modifier un récepteur qui est utilisé par un virus respiratoire qui entraîne une maladie chez les porcs, et donc du coup, c'est un coût pour l'exploitant qui est phénoménal. Donc pour faire des économies, on va leur modifier leur génome, et ça dès 2025. Donc à l'heure du Covid-19, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas éditer le génome humain pour se débarrasser des virus? Voilà, donc ces bébés CRISPR, là, ça a donné lieu à toute une bibliographie importante. Hein. Et je vais conclure sur la réflexion du comité consultatif national d'éthique, là, qui a donné son avis il y a deux semaines, hein, ça date, vous voyez, du 16 février 2021, et qui parle de l'eugénisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce terme a été évoqué au moment des débats des états généraux, au moment des débats de 2018, dans lesquels justement le Conseil consultatif national d'éthique était très, très impliqué. Et en fait, le comité consultatif national d'éthique conçoit qu'en effet, on laisse venir au monde des enfants porteurs de maladies graves pour lesquels un dépistage précoce permettrait de diminuer l'expression de la maladie, voire de les en guérir. En revanche, si elles étaient utilisées sur le génome des cellules germinales, donc quand on touche aux cellules germinales, ça veut dire qu'on peut transmettre à la descendance cette modification. Ces mêmes techniques de médecine génomique laissent entrevoir la possibilité de réanimer le fantasme eugéniste de l'amélioration de l'espèce. Donc le CCNE appelle non seulement à la prudence, mais également à l'humilité face au très long et puissant processus de l'évolution. Si on touche aux cellules germinales, on touche à la survie de l'espèce, en fait. On modifie l'évolution de l'espèce, dont l'analyse à travers l'histoire nous permettrait d'admirer sa contribution à la préservation du vivant et à sa diversité. Donc en fait, il attire l'attention sur les dérives possibles du transhumanisme. Le transhumanisme ne peut être assimilé à l'eugénisme de par l'absence de la transmissibilité de la descendance de ses visées d'amélioration de l'humain. Toutefois, il y a quand même un risque. Le risque est qu'on définisse un prototype d'humain qui soit meilleur selon des critères de performance et qui va réduire la diversité des manières d'être humain. Et donc voilà, pour conclure, la dernière phrase que je cite, hein, toujours des réflexions du comité d'éthique. Face à ces défis, la question qui nous est posée n'est plus seulement celle du monde que nous voulons pour demain, mais aussi celle de l'humanité que nous souhaitons voir advenir et à laquelle nous souhaitons contribuer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, c'était passionnant, un peu inquiétant. Voilà, effectivement, c'est des questions qui doivent être soulevées. On n'en parle pas tellement souvent, donc je vous remercie encore d'avoir abordé ce sujet. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des questions. Autrement, je vais regarder si les gens qui nous suivent en visioconférence ont des questions également. Je leur laisse le temps de taper le message. Pour l'instant, je n'ai pas de message. Voilà, j'attends un petit peu. Merci Laurent.
Bonjour, Laurent Fignon, École de l'ADN. Deux petites questions sur la première, en fait, sur l'accès possible aux origines par rapport aux enfants issus de l'AMP là, depuis septembre. Est-ce que c'est court, mais est-ce qu'on a déjà une petite idée? Ça a été pas mal débattu sur les donneurs et une baisse éventuellement des donneurs du fait qu'on puisse. Que ces enfants puissent maintenant avoir accès aux origines, même s'il y a peu de recul, il y a 6 mois finalement.
Pour le moment, non, on n'a pas de baisse significative des donneurs parce qu'on a un profil de donneur qui est un peu différent de celui qu'on avait il y a quelques années. On parle de plus en plus de toute façon du don de gamètes, c'est quelque chose qui commence maintenant à être intégré dans la société. Et les donneurs aujourd'hui conçoivent tout à fait qu'ils peuvent être éventuellement recontactés dans 18 ans à la majorité de l'enfant. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il était hors de question qu'il puisse y avoir un contact entre le donneur et l'enfant issu de son don. Donc non, ça, c'est pas. On n'a pas moins de donneurs. En revanche, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de demandes, par contre. C'est-à-dire que les chiffres qui avaient été annoncés de demandes de recours à un don de gamètes est 4 à 5 fois plus important que celui qui avait été initialement prévu. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on arrivait à répondre à toutes les demandes? Ça, je vous répondrai dans quelques mois.
Une autre petite question un petit peu plus large sur, on va dire, la réécriture du génome et ce qu'on poussait le plus loin, c'est finalement la Chine et puis là, la Russie. Est-ce que c'est deux pays qui ont ratifié la convention d'Oviedo ou pas du tout, vous savez?
Alors, concernant la Chine, je sais qu'elle n'a pas du tout suivi, son chercheur, qu'elle a une réglementation qui paraît quand même assez stricte. Voilà. Et concernant le chercheur russe, c'est pareil, il a bien dit « je ne le ferai que si j'ai l'accord de mes autorités ». Pour l'instant, je ne crois qu'il n'y a aucun pays qui a donné le feu vert pour développer ce genre de technique sur l'embryon humain.
D'accord. Voilà. Et il y a des projets de gamétogénèse in vitro pour des cellules reproductrices mâles?
Ah oui, oui. Non, il y a beaucoup de progrès qui se font. Là, je vous ai parlé des ovocytes, mais il y a aussi pour les spermatozoïdes. Oui, tout à fait. Notamment, il y a une équipe à Lyon, en France, qui est aussi à la pointe dans ces recherches. Le problème de la gamétogénèse mâle, c'est que le spermatozoïde, je vous l'ai montré, vous avez vu, c'est une petite cellule, mais qui est très différenciée, qui a un flagelle, qui a un noyau très particulier, très condensé. Et donc, en fait, c'est toute cette étape de différenciation cellulaire après la méiose qui est très spécifique. Qui est assez complexe à développer in vitro, en fait. Alors que l'ovocyte, non, c'est beaucoup plus simple.
Mais c'est travaillé. Merci.
Merci. Des questions chez les jeunes. Je vous regarde. Deux petites secondes, excusez-moi. Le temps de me déplacer. Non, toujours pas de questions. Et donc, complètement, enfin, en France ou à Rennes, au CHU, vous faites combien de FIV par an ou des choses comme ça? Quelques chiffres, ça progresse ou ça...
Oh bah ça non, bah c'est comme chaque année, comme tous les centres. Hein, on est une centaine de centres de fécondation in vitro sur le territoire national. Voilà, et chacun fait son activité sa façon, enfin voilà, oui. Habituelle. Donc non, il y a peu de changements particuliers avec le changement de la loi de bioéthique.
D'accord, ok. Et donc il y a un coût, c'est pris en charge par la sécurité sociale, je crois.
Oui, tout est pris en charge. On a les tentatives de fécondation in vitro sont prises en charge par la sécurité sociale. Il y a 4 tentatives qui sont remboursées. Mmh. Et on a aussi la mise en place de l'autoconservation sociétale aussi qui est prise en charge par la sécurité sociale.
D'accord, merci. Mmh. Ah ben là.
Est-ce que vous avez une idée à l'échelle nationale, plus sur le diagnostic préimplantatoire par rapport à des maladies, est-ce qu'on a enfin, le nombre de DPI qui se fait à peu près en France chaque année ou...
Le nombre, je sais qu'il y a 5 centres en France qui pratiquent le DPI. C'est plusieurs. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs centaines de tentatives par an sur les 5 centres, oui. Oui.
Mais ça reste finalement qu'à plusieurs centaines, ce n'est pas non plus un volume. Parce que c'est une démarche qui est longue quand même, en fait.
Alors, il faut savoir que le diagnostic préimplantatoire en France est très strictement encadré. Il n'est limité que chez des couples qui ont une anomalie génétique avérée, avec une maladie grave et incurable. Sinon, on ne va pas faire un diagnostic préimplantatoire comme on peut le faire aux États-Unis pour choisir le sexe ou la couleur des yeux du bébé. Ça, en France, c'est complètement interdit. Par contre, en Europe, il y a ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire d'analyse de l'aneuploïdie, c'est-à-dire le nombre de chromosomes contenus dans les cellules de l'embryon, qui n'est pas autorisé en France, mais qui est autorisé en Espagne, enfin à nos frontières. Quoi. Et voilà, pendant la loi de bioéthique, ça a été très débattu. Pour l'instant, ce n'est pas encore accepté, mais un certain nombre de professionnels se battent pour essayer de pouvoir proposer cette analyse aux femmes qui ont des échecs à répétition de fécondation in vitro. Parce qu'on pense que, justement, c'est parce que les embryons n'ont pas le nombre de chromosomes normal qu'ils ne s'implantent pas, et qu'il n'y a pas de grossesse. Alors que, voilà, comme on n'a pas le moyen de l'analyser, nous, en France, ben, c'est peut-être une perte de chance pour les patients.
Merci.
Donc, merci, je regarde. Donc, pas de message, sauf des remerciements de la part des auditeurs qui étaient donc à distance. Voilà, en vieillissant, les couples ont de plus en plus de mal à avoir des enfants ou avoir des enfants avec des anomalies. Est-ce que, comment dire, il y a là aussi, il y a des évolutions ou est-ce qu'il y a des, par rapport à ces couples, justement, des techniques de procréation qui pourraient y remédier ou...
Voilà, la première chose, déjà, c'est d'avoir encadré la prise en charge avec un âge limite. Je vous ai parlé de l'âge limite de prise en charge chez les couples. Voilà, déjà là, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, il y a trop de risques. De risques pour la maman, de risques pour le bébé, enfin voilà. Et du coup, ça ne sert à rien d'aller au-delà des limites de la nature, quoi. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, ce que des fois les patients ne comprennent pas.
Parce que tout est possible, après.
Voilà, exactement.
On dit avec la science, tout est possible.
Exactement.
Faire un bébé à 60 ans.
Exactement, oui. Et c'est pour ça que la phrase du CCNE est très pertinente quand ils disent quelle est la société qu'on veut. Voilà, c'est à nous de la décider, en fait. Hein.
C'est assez vertigineux, effectivement. Là, on avait l'impression, mais jusqu'où vont-ils aller quand on voit votre schéma là, ça, la progression, les dates qui se rapprochent, l'évolution, on parle de clonage, on parle de choses. Je ne sais pas, là, les jeunes qui sont en assistance, c'est des choses sur lesquelles vous êtes avertis ou pas du tout si vous êtes présent déjà ici aujourd'hui, c'est parfait. Vous êtes intéressé au sujet, c'est gentil. Je ne sais pas qui veut prendre
la parole. À vrai dire... j'étais un petit peu déboussolé aussi par les avancées, parce que on en a entendu, enfin pour ma part, moi je suis en deuxième année de sciences de la Terre et on n'en entend pas vraiment parler, mais au lycée ou dans des matières un petit peu marginales comme l'anglais par exemple, où c'était le seul moment où on nous posait à peu près les questions de bah, oui, alors qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses. C'est vrai que la problématique est intéressante pour faire face au virus, par exemple. J'ai trouvé que c'était très pertinent parce qu'on voit encore aujourd'hui, voilà, s'il y avait eu le moyen d'annihiler le Covid avant qu'il soit présent et qu'il cause autant de dommages, pourquoi pas. Mais après, c'est je serais que pour ma part, en tout cas pour ce qui concerne tout le reste, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, et que les avancées vont beaucoup trop vite. On ne sait pas vraiment bien où est-ce que ça va aller. Voilà, c'était s'il y avait une question que je pouvais vous proposer, c'est que vous, qu'est-ce que vous en penseriez ?
Disons que quand les deux petites jumelles chinoises sont nées et qu'on a, voilà, qu'on a eu la connaissance de la modification de leur génome, là, c'est un peu comme une... voilà, pour moi, c'était comme une effraction, quoi. Enfin, c'était une zone qu'on ne devait pas franchir. Et la zone, elle a quand même été franchie. Le choc, ça a été ce moment-là. Moi, c'est 2018, là, c'est vraiment... Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça, on n'a pas pu faire ça. Et maintenant, en 2022, donc ça fait quoi ? Ça fait 4 ans. En 4 ans, j'ai vu les choses évoluer. Et je pense que c'est... maintenant, elles ne sont pas deux, parce qu'on sait qu'il y a eu une troisième naissance qui a eu lieu plusieurs mois après. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé tout de suite. Elles sont trois. Elles sont trois petites filles à avoir eu un génome modifié. Je pense que ce ne sont pas les seules. Je pense qu'il y en aura d'autres. Surtout qu'avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit, avec l'intelligence artificielle, maintenant, on est capable de prédire les mutations hors site, qui était c'est vraiment le facteur limitant de cette technique. Mais si maintenant on arrive à surmonter ce facteur limitant, je ne sais pas si, voilà, je sais pas si on résistera longtemps avant de recommencer, parce que voilà, ça va très très vite.
J'ai l'impression que que vous avez bien transmise. Hein, c'est vrai que voilà. Et on sait ce qu'elles sont devenues, Lulu et Nana, là.
Alors elles sont suivies très régulièrement, tous les 6 mois, elles ont
un
bilan.
Des retours, hein.
Et ça, c'est aussi un autre problème éthique, parce que elles sont tellement stigmatisées qu'elles ne vont pas grandir de façon normale. Elles n'auront pas une vie normale, ces deux petites filles. Donc ça aussi, ça pose un gros gros problème. C'est une question qui est discutée régulièrement dans les débats éthiques, parce que personne ne sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut les laisser tranquilles, ou est-ce qu'au contraire il faut les surveiller ? Voilà, c'est compliqué.
Je jette un dernier regard sur l'écran. Hop, je ne sais pas s'il y a encore des gens en ligne. Hop. Eh bien non, donc désolée, pas d'autres questions, mais écoutez, je vous remercie pour votre présence, et merci encore au professeur Ravel, c'était très très intéressant, mais je pense que là, vous avez un peu scotché, si je peux dire, on est tous en train de réfléchir à l'avenir, et donc c'est avec plaisir qu'on vous réinvitera pour savoir une question. Alors attendez, c'est qu'on enregistre pour que, voilà, vous laissez une présence.
Alors bonjour tout le monde. Comme mon ami, je suis aussi en L2 sciences de la Terre, sauf que moi, dans ma première, j'avais fait un projet sur l'éthique et les modifications génétiques, et j'ai aussi lu pas mal de livres post-apocalyptiques comme Le meilleur des mondes, je sais pas si vous l'avez déjà lu. Et justement, quand vous parliez de la sélection des gènes, ça m'a beaucoup fait penser à ce conditionnement du meilleur des mondes, où dès l'enfance, dès l'étape embryonnaire, ils commençaient déjà à modifier l'enfant, l'embryon, le bébé, afin qu'il puisse s'intégrer dans une classe sociale. Et donc, déjà à la naissance, on pouvait déjà commencer à faire une ségrégation. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est discuté la possibilité de ségrégation dans les sélections des gènes. Par exemple, est-ce qu'on veut déjà, on peut sélectionner certains gènes pour le donner à l'enfant, comme par exemple, il sera grand, grand, musclé, blond. Voilà.
Oui, c'est possible. On est en mesure de le faire. On le fait pas. En tout cas, nous en France, on le fait pas. C'est tout à fait possible parce que on a tellement bien décortiqué le génome humain aujourd'hui en 2022 qu'on sait, on sait quels sont les gènes qui vont te rendre grand, blond, aux yeux bleus.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que certaines, que certains pays ou que certaines nations le fassent dans le dos afin de créer je sais que c'est un peu opposé, mais c'est en fait surtout s'il y avait un risque, qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Surtout ça. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté ? Parce que forcément, dans les laboratoires, peut-être pas vous, mais forcément, il y a peut-être des gens qui sont tentés de le faire, parce que ce serait vraiment une révolution, de, par exemple, supprimer certaines maladies. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient tentés de le faire et quels sont les risques ?
Bah écoute, tu vois, le chercheur chinois qui a modifié le génome humain, en fait, il avait monté sa start-up et il faisait sa propre recherche, en fait. Il n'y avait pas eu d'encadrement universitaire net, il n'y a pas eu de comité d'éthique, même s'il a fait croire que ça avait été accepté par un comité d'éthique, en fait, il avait fait un faux. Donc, il a tout fait tout seul, quoi. Et des chercheurs un peu comme ça, électrons libres, je pense qu'il y en aura, il y en a toujours eu, il y en a eu et il y en aura encore. Et on ne sait pas jusqu'où ils iront, en fait.
Pas vraiment rassurée. Voilà, mais écoutez, encore merci. Vous êtes déplacée depuis Rennes et puis bon retour et j'espère à bientôt. Au revoir.